Bonjour. Donc, avant de commencer à par vous présenter le premier pasteur qui va partager, je dois vérifier quelque chose. Pasteur Niazi a essayé de voler les bouquets pour les offrir à sa femme. Mais malheureusement, elles sont scellées, donc on ne peut pas les... Mais elle est tellement super, la femme, donc... Pasteur Niazi d'Istanbul, si vous voulez bien l'accueillir, s'il vous plaît. Est-ce que ma femme est là? Je vais essayer de lui donner les fleurs. Ah, je vais les lui offrir directement.
Oh.
Seigneur Jésus, merci pour ma femme. Merci Seigneur. Radha, je t'aime. Je veux commencer un mouvement « J'aime ma femme » dans l'église. Il y a des moments, il faut le dire. Il y a des fois, on dit « Père, pardonne à ma femme, elle a un mauvais jour. » Mais Seigneur, merci. On te demande de bénir ces paroles. Merci Jésus. On te demande de mettre ta paix dans notre cœur et de nous préparer à recevoir de toi. Et nous prions cela en ton nom, Jésus. Amen. Vous savez que je suis turque d'Istanbul. Donc, il y a deux personnes. Ilhan, si Ilhan peut se lever. Il n'est pas là. Non, Ilhan est là. Le voici. En fait, il habite à côté du mont Ararat. Sa terrasse, c'est un grand ami et je vous recommande vivement de le rencontrer parce que c'est un homme de Dieu fantastique. Il est kurde et c'est un grand ami. Un autre ami, c'est Gilim d'Izmir. J'aimerais vous la présenter. Je ne suis pas sûre si elle est là. Est-ce que notre frère turc, Gulim, c'est génial d'être ici. Merci pour tout. Merci les pasteurs de m'avoir confié la charge de ce pupitre et votre confiance. J'aimerais parler du temps. Le temps. Ça prend du temps. Il nous est donné un temps sur cette terre. Et c'est le temps que Dieu nous accorde pour que nous puissions le connaître. C'est pour ça que le temps est là. Et nous avons également besoin de la sagesse pour le temps que nous vivons, pour la période de temps où nous sommes. Et j'aimerais vous parler d'Abraham. Avant cela, combien les choses peuvent se précipiter et aller tellement vite. Comment vous allez? La première fois que j'ai entendu ça, quelqu'un qui passe à côté de moi en disant « Salut, ça va ?» Et je voulais expliquer comment j'allais, en fait. « Comment ça va ?» Et hop, la personne est partie. Quelque chose comme ça, voyez. Même la communion prend du temps. Et moi, je suis pareil. Comment ça va? Ok, ça va. Et je vais trop vite. L'amour, la communion prennent du temps. Et l'amour également. Nous avons besoin d'y accorder du temps, de prendre du temps à part pour ça. Le temps est quelque chose de très précieux. Et le temps fait partie des grands... c'est une grande bénédiction, un grand cadeau, et on a besoin de faire attention et d'être responsable avec le temps que Dieu nous donne. Tout ce qui est bon, ça prend du temps. Ça prend du temps de faire de la cuisine. Il faut prendre le temps d'assaisonner, de cuisiner, afin que tous les goûts se développent. Éduquer les enfants, ça prend du temps. Vraiment. Perdre du poids prend du temps. Il y a beaucoup de choses qui prennent du temps. Plein de bonnes choses, en fait. Et Abraham, de la Bible, il est comme vous et moi. C'est une personne. Et il attendait Dieu. On le voit en Genèse, en chapitre 18. Il a reconnu que le Seigneur arrivait. J'aime la façon dont Abraham attendait Dieu et dit le Seigneur va venir. Et tout de suite, il envoie ses serviteurs pour tuer un veau, le bon veau. Tu vas le mariner, tu vas le préparer. Il prépare son cœur pour la venue du Seigneur. Comme nous tous, nous venons et nous préparons notre cœur. C'est pas quelque chose d'extérieur, mais en nous, l'homme intérieur, nous nous préparons dans notre cœur que Dieu puisse nous parler, afin que la parole puisse pénétrer au plus profond de notre cœur. Nous nous rassemblons comme Abraham l'a fait. Et on dit, fais cela, abat le veau gras. Et, parce qu'on a cette attente dans le Seigneur et sa parole. Nous venons. Et c'est notre vie. Et c'est ce qu'il a fait. Il était dans une tente. Il était assis à la tête, devant sa tente. Quand il sortait de sa tente, il pouvait voir tout ce qui venait vers lui. Il était dans une attitude d'attente et d'ouverture. Et c'est là où le Seigneur lui a fait une promesse. Tu vas avoir un fils. Le Seigneur lui a parlé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Sarah a ri dans son cœur. Et par la vue, elle riait. Comment est-ce que je peux tomber enceinte? Toutes les raisons logiques visibles étaient impossibles. Et elle riait. C'est qui? Elle dit, en fait, il ne sait pas ce qu'il raconte, c'est impossible. Est-ce que le Seigneur lui a dit? Pourquoi Sarah rit-elle? Et j'aime cette image. Abraham prépare tout, il essaye tout. Mais on peut dire que Sarah, c'est comme l'intérieur d'Abraham. À l'extérieur, tout est prêt, j'ai fait tout. Et à l'intérieur de la tente, Sarah, l'homme intérieur rit. Et Dieu traite ça. C'est pour ça qu'on est ouvert à l'intérieur de nous. Seigneur, parle-moi. Je veux avoir une vie préparée. Je veux être préparée pour ta parole et pas de façon extérieure, mais intérieure. Si je ris, si j'ai méprisé tes promesses, dis-le-moi, parle-moi. C'est ça notre vie. J'aime la façon dont la préparation a fonctionné avec Abraham. Et juste au chapitre après, en Genèse 19, et là on voit Lot. Et Lot fait la même chose en apparence. Lui aussi s'attend à Dieu quelque part. Il se dit lui aussi le Seigneur vient. Mais lui, il a une maison en pierre, il n'a pas de tente. Et qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Qu'est-ce que Lot dit? En fait, on va aller on va aller dans les rues, on va aller dans les places publiques. C'est quand c'est le Seigneur nous parle. On va aller dans les rues. Je suis après les âmes. Je suis venu dans ce monde pour sauver ce qui est perdu. Et il faut que je prenne le temps de le connaître. Et Dieu me donne ce temps et cette préparation. Et qu'est-ce que fait... Et en fait, Lot a enfermé le Seigneur dans sa maison de pierre. Et il avait de bons invités. Il avait la sagesse et le Seigneur dans sa maison. Et le Seigneur a dit, on va sortir. Et ce que je réponds, c'est quoi? Non, non, tu ne sais pas ce qui se passe là. C'est dangereux là dehors. Peut-être qu'ils vont te blesser. Moi, je suis ton gardien. Je vais te garder à l'intérieur de ma maison afin que personne ne puisse te blesser. Je suis là, d'accord? N'aie pas peur. Genèse 19:2, Lot est sorti et a fermé la porte. Et en fait, il est en train d'affronter le monde et ce que le monde veut. Ils veulent ses invités. Donne-moi ça. Je veux ça. Cette espèce de désir un peu bestial. On veut ça. Donne-le-nous. Et qu'est-ce que... Et Lot a dit, est-ce que je peux vous donner quelque chose? Qu'est-ce que... J'ai mes deux filles vierges. Mes merveilleuses filles à moi. Je peux vous les donner toutes les deux. Et faites ce que vous voulez. Mais ne touchez pas mes invités. C'est tellement horrible. Je me suis toujours dit que Lot était un père horrible. Et j'ai commencé à comprendre qu'est-ce qui est le plus précieux pour moi. C'est mon temps. Mon temps avec Dieu. Et ce monde vient et me réclame mon temps. Donne-moi ton temps. Donne-moi ton Dieu. Je veux la sagesse que je vois en toi. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Est-ce que ça vous aide? Je suis... Les gens sont là en train de me demander ce que j'ai. C'est comme s'ils essayaient de rentrer à l'intérieur. Je ne peux pas te donner mon temps. Ce temps intérieur avec Dieu, je ne dois pas te le donner. Je ne peux pas me permettre de le faire. Le Seigneur dit, on va aller dans les rues. Et j'aimerais vous encourager. Allons dans les rues. Allons dans les rues. Qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas, n'importe quoi. Je serai là avec le Dieu Tout-Puissant. Est-ce qu'on peut le faire? Oui. On va aller dans les rues. Et je ne vais pas... Je vais leur donner ce qu'il y a de plus précieux. Et je suis avec Dieu. Et Dieu va me dire, on va aller dans les rues. Et je me tiendrai avec toi. Tout ce que tu veux faire, c'est ton œuvre. C'est ton œuvre accomplie. C'est toi qui l'as fait. Et ça a pris du temps. Venez. J'ai peur, bien sûr. Moi aussi, j'ai peur. Je sais que c'est difficile. Je sais que ça a l'air horrible. Mais il a dit, on va y aller ensemble. On va aller ensemble dans les rues. Et quand ça parle, ça nous parle. Et quand Dieu nous parle comme ça, on dit, oui, prépare-moi. Enseigne-moi à te faire confiance. J'ai besoin de sagesse. Quand j'ai des soucis, j'ai un peu appris ça. Quand j'ai un souci, je vais évangéliser. Ça se résout tous mes problèmes parce que ça m'édifie, ça a un ministère envers moi. Et Dieu me dit, on va aller dans les rues. Est-ce que je vais enfermer Dieu à l'intérieur? Non, je vais aller avec lui. Merci parce que vous le faites. Je suis le fruit de cela. Les gens sont allés dans les rues. Ils n'ont pas enfermé leur Dieu à l'intérieur, mais ils sont sortis. Et ils ont parlé. et n'ont pas négocié, ils n'ont pas offert leurs plus belles choses. Mais ils sont partis avec leur Seigneur. Je regarderai à Dieu. Et ça va construire ma vie intérieure avec Dieu. Et je suis tellement reconnaissant pour vos prières, vos vies. Et si vous voulez qu'on parle de plus à propos de la mission en Turquie, nous avons un stand. On y est là. Et on ne sait pas ce qui peut se passer, n'est-ce pas? Venez et passez du temps avec nous. Et faisons des plans. Et faisons un plan ensemble pour aller dans les rues avec le Seigneur, tous ensemble. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va se mettre debout pendant un instant. Pasteur Mahamia vient de l'Ouganda, sur le grand continent, grand continent africain. Vous pouvez l'accueillir. Bonjour. C'est super d'être ici. Merci, Pasteur Schaller, pour cette opportunité que tu donnes et que tu me donnes de parler et de me tenir devant la congrégation. Merci pour ton ministère. Merci pour tes prières. Et nous aussi, en Ouganda, on prie pour vous. Merci pour l'Église. Donc, toutes les églises de l'Ouganda vous saluent. Nous avons plus d'un millier de personnes qui sont venues à notre conférence. Et en fait, notre Premier ministre s'est converti pendant cette conférence. Oui. Pasteur Shibeli et Pasteur Reynaldo étaient là. Et on priait pour lui parce qu'il a commencé à courir pour le mandat. Et je ne sais pas si parce qu'on a trop prié, en fait, il a dû abandonner. Mais on priait une chose. Seigneur, sauve cet homme. Et nous avons prié tous les jours pour l'âme de cet homme. Et le voir venir à Christ, on s'est dit oui. Il n'est pas devenu le président, mais il est devenu un enfant de Dieu. Et c'est magnifique. Il aime notre ministère. Il avait l'habitude de se demander qu'est-il arrivé au Dieu d'amour, de miséricorde et de grâce. Et lorsqu'il a entendu dans notre ministère, il a vraiment aimé. Vous pouvez continuer à prier pour lui. J'ai trois enfants. En fait, maintenant, il y a eu trois pasteurs ordonnés à partir de l'orphelinat, et l'un d'entre eux est en train de commencer une église. Et on est reconnaissant à Dieu pour ce qu'ils font. Maintenant, il y a 69 églises, et l'an prochain, il y aura 4 églises de plus, Ouganda, Kenya, et maintenant au Rwanda. Merci de continuer à prier pour la main de Dieu sur cette fin. Et merci de voir Pasteur Yukande et Helena. Luc, au chapitre 18, verset 8. Luc 18, 8. On va commencer au verset 1, en fait. Leur adressa une parabole pour dire qu'il ne faut toujours prier et ne point se relâcher. Voici, il y avait dans la ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Et il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il se dit en lui-même « Quoique je ne craigne pas Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, M'importe une, je ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que le juge inique dit. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardira-t-il à leur écart? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur cette terre? Père, nous voulons te remercier pour ces paroles. Dans ce monde instable, nous te prions que nos yeux restent fixés sur Jésus-Christ, qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Jésus, nous voulons te remercier dans notre vie. Nous voulons remercier le Saint-Esprit. Et Seigneur, nous te demandons de parler à notre cœur. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. J'aimerais parler de la foi. La foi stabilise le croyant dans ce monde instable. En 2 Corinthiens 5, 7, il nous est dit que nous marchons par la foi, pas par la vue. En Romains 1, 7, celui que Dieu sauve, il le fait par ceux qui ont la foi. 2 Corinthiens 2, 5, la parole de Dieu dit que notre foi n'est pas de la sagesse. En fait, la foi ne consiste pas dans la sagesse des hommes, mais dans la puissance de Dieu. Je pense qu'il y a eu des statistiques. Ils ont fait ça en Amérique, ici donc. Je crois qu'ils ont fait une interview sur 1500 pasteurs. Et ils ont découvert que 87% d'entre eux planifiaient de quitter le ministère et de ne plus être pasteur. 57 ont dit préférer arrêter le ministère pour travailler dans un monde séculier. Que va-t-il se passer avec les pasteurs? Si ça arrive avec les pasteurs, que va-t-il arriver aux brebis? Mais lorsqu'on regarde les statistiques, merci pour ce que tu as dit hier, pasteur en chaleur d'ailleurs, on ressent que les portes de l'enfer pressent et appuient lourdement sur l'Église. Mais Jésus nous demande, quand je reviendrai, est-ce que je retrouverai la foi sur cette terre? C'est une grande question à se poser. C'est la question. Il ne nous demande pas. Et en fait, il sait déjà, il connaît déjà la réponse. Et je ne pense pas qu'il s'adresse aux païens, mais il s'adresse à ses enfants. Est-ce que je trouverai mes enfants dans la foi? C'est-à-dire, est-ce que je trouverai mon peuple en train de dépendre de moi, mes enfants dépendre de moi? Donc la vraie question, et Satan nous projette beaucoup de choses, est-ce que tu dépends de Dieu ou non? Et est-ce que tu peux vraiment faire confiance à Dieu? Est-ce que le Dieu en qui tu te confies est digne de confiance? Et quelquefois, vous rentrez chez vous à la maison et vous avez ces projections qui arrivent dans votre tête. Et ces projections, c'est, tu vois, Dieu, tu ne peux pas lui faire confiance. Parce que sinon, Dieu ne t'aurait pas lâché dans cette solution. La même chose pour ta famille. Pour la famille. Ou pour éduquer nos enfants. Est-ce que je peux lui faire confiance quand je vais sur le champ missionnaire? Est-ce que je peux lui faire confiance? Et Satan est toujours en train de murmurer ça dans notre oreille. Et on prie à Dieu. Et Dieu... Et Dieu répond non, et Satan, et Dieu prend le nom, et Satan prend le nom de Dieu et dit, tu vois, ben voilà, c'est parce qu'il peut pas. Parce que Dieu peut pas faire. Il prend la réponse de Dieu, et quand Dieu nous dit, attends, eh ben, Satan murmure, tu vois, toutes choses ne sont pas impossibles pour Dieu. Parce qu'il est le père du mensonge. Et tout ce qu'il dit, c'est toujours des mensonges. C'est rien, c'est du vent. Mais nous avons le Père de la vérité qui dit la vérité en tout le temps et toujours. Nous sommes comme dans un marché. Et nous avons besoin de choisir ce que nous allons acheter. Et ce que Pasteur Chaleur a dit hier est très vrai. C'est une guerre d'idéologie qui se passe en ce moment. C'est ça la guerre en ce moment. En Afrique, la guerre là-bas en ce moment, c'est... Vous avez des États, des présidents qui croient que les missionnaires sont venus avec la Bible et qu'ils ont tordu nos véritables croyances. Et ils disent, avant on marchait bien, on marchait droit, avant les missionnaires. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont apporté leur idéologie. Et donc ce qu'ils poussent, c'est... Et en fait, ce qu'ils disent, c'est qu'on peut à la fois garder la Bible, l'Église et la sorcellerie. Et il soudoie les gens. Et en ce moment, c'est notre bataille à nous. Je ne suis pas un politicien. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais, et j'ai suivi la campagne en Ouganda. Avant les élections, j'ai parlé avec un pasteur qui est une personne qui a beaucoup d'argent, qui travaille, c'est un officiel du gouvernement. Et elle a quitté, elle dit, pourquoi tu es parti? Elle fait, à cause de la sorcellerie qu'il y a dans le palais présidentiel. Je peux plus accepter l'argent qu'il me donne. Il y a tant de sorcellerie. Et ça, c'est une pression qu'il y a sur l'Église. Si vous êtes un pasteur, on vous donne de l'argent pour que vous introduisiez la sorcellerie. Et si vous ne le faites pas, vous êtes leur ennemi. Donc, en fait, mis à part la confrontation, vous avez peu de solutions. Je me souviens, ces derniers temps, après les élections, on est venu m'interviewer à la télévision. Vous savez ce qui se passe dans le pays, on m'a dit. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai répondu, nous avons besoin de prier. Nous avons besoin de prier. Tous, nous avons besoin de nous mettre à genoux pour la situation. Et nous avons commencé à prier. Et le gouvernement a commencé à arrêter les gens parce qu'ils priaient. Mais nous avons continué. Nous prions. Et ce qui s'est passé, c'est que la semaine d'après, il y a eu un coup de tonnerre et la foudre est tombée sur des gardes de sécurité du président. En fait, il y a eu tellement de tonnerre et de foudre qu'on a dû partir. Ce que je veux dire, c'est quand ça concerne même nos nations, certains veulent qu'on suive leur système plutôt que Dieu. Mais notre Dieu, nous pouvons faire confiance à Dieu pour toute chose. Et Dieu peut faire tout et n'importe quoi. Il est toujours présent. Il est tout puissant. Il connaît toute chose. Il est tout amour. On sait qui est Dieu. Et nous allons le trouver par la foi. En fait, les problèmes de confiance, c'est pour les gens du monde, mais pas pour les croyants. Où on dit toujours, on a un proverbe en Afrique, c'est celui qui recompte les billets après les avoir sortis du distributeur a un problème de confiance. Nous, c'est pas comme ça qu'on est avec Dieu. Nous n'avons pas de problème de confiance quand nous avons des problèmes. Nous faisons confiance en Jésus-Christ parce qu'on peut lui faire confiance. Il est digne de confiance. Mais l'Église a cru à des mensonges. En Apocalypse 3, il y a une église qui a cru à un mensonge. Lorsque vous lisez en Apocalypse 3, il dit que l'église a grandi, mais en dehors de Jésus-Christ. Et c'est ce que Satan projette. Tu peux grandir en dehors de Christ. Tu n'as pas besoin de lui. Tu n'as pas besoin de lui. Tu as besoin de ça. Pourquoi? Parce qu'il veut qu'on marche par la vue. J'ai besoin de Jésus. Quand j'ai Jésus, je n'ai plus besoin de rien. Et les églises d'Apocalypse, elles avaient tout, mais elles étaient nues. Et Jésus regarde à l'église et a dit, tu es aveugle, tu es nu et tu as froid. Tu es pauvre. Tu es nu. Il l'a dit aussi à Saul. Quel est le problème? Je réfléchissais à ce passage. Et en Genèse, chapitre 3, qui est le premier des livres, Adam est conscient de sa nudité et Dieu ne semble pas. Et en Apocalypse, qui est le dernier, en fait, les églises ne savent même pas qu'elles sont nues. Mais Jésus est conscient de leur nudité. Pourquoi? Je crois. C'est à cause de l'action qu'il a prise. Il sait qu'il a tout accompli à la croix en Jean 19:30. Tout est accompli. Et le problème de ces églises en Apocalypse 3, c'est qu'ils essaient de se couvrir, de grandir. Ils essaient de faire les choses en dehors de Jésus-Christ. Fais, je suis assis. Je suis assis. Que le reste vienne. Je suis ici, venez acheter de moi de l'or. Venez acheter gratuitement de l'or. L'Église avait... L'Église dépend plus des choses de ce monde plutôt que de dépendre de Christ lui-même. Vraiment, c'est un contraste saisissant. Il faut faire attention à de qui nous dépendons dans notre travail, dans notre famille, dans tout ce que nous faisons dans cette vie. On peut faire confiance à Dieu. Il est digne de confiance. Ne croyons pas en des mensonges. Ne croyons pas au mensonge du diable qui nous souffle que Dieu ne peut pas être... on ne peut pas se confier en Dieu. Non. À cause des choses dans notre vie, ne tirons pas de conclusions hâtives et ne croyons pas que Dieu, on ne peut pas se confier en lui. Non, on peut s'attendre à lui. Il est le roc. Le rocher qui ne peut pas être ébranlé. Alors que nous affrontons tout ce qui se passe dans notre vie, dans ce monde, et toute cette pression où les portes de l'enfer pèsent contre l'Église. Nos yeux sont fixés sur Jésus, celui qui a dit que les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Et on rend grâce à Jésus-Christ parce qu'il a été avec nous tout du long. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc, à côté de vous, vous pouvez parler du fait que Dieu est digne de confiance, et puis il y a ces deux sœurs qui vont venir pour chanter un chant.
de ces deux jeunes femmes vivent à Puerto Rico. Non, la plus grande. La plus grande est à l'université au Massachusetts, n'est-ce pas, Pasteur Julien, c'est ça? Cynthia, ouais. C'est ça? Je me suis pas trompée.
Williams College, up in our old stomping grounds in Berkshire.
Ouais, elle est à Berkshire, en Massachusetts.
So what is the oldest daughter's name?
Quel est le nom de ta fille aînée?
Abigail.
Merci. Et ta sœur?
Aliyah.
Est-ce que tes autres sœurs sont là? Ta maman? Non? Elles sont restées à Porto Rico, ok. C'était une belle famille, n'est-ce pas? C'est une belle famille. Je crois qu'ils sont six filles. Donc, je vais faire un tout petit message tout court ce matin. Merci. Merci pour les frères, pour leurs paroles qui nous ont apporté. C'était vraiment des très bonnes portions. Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Et vous allez poser la question suivante à votre voisin. Est-ce que ça t'est arrivé d'être déprimé? Je regarde si vous vous posez bien les questions. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Ok. Merci Seigneur. On va lever les bras. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. On te loue Seigneur, on te remercie. Merci. Merci Jésus. Pour ton esprit, ton amour, ton sang, merci Père. Merci pour ton peuple, ta grâce envers nous, ton pardon, ton Fils, ton plan, tes prophètes, Moïse. Merci Seigneur, le tabernacle, les sacrifices, l'alliance avec Abraham, Noé, David, merci Seigneur. Pour chaque parole de ce grand livre, merci Seigneur. Pour chaque croyant ici aujourd'hui, merci Seigneur. Merci, au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Avant de s'asseoir, vous allez faire un high five à votre voisin, comme ça, voilà. Si vous voulez bien regarder avec moi en Genèse 18 et le thème d'avoir de la sagesse dans le temps que nous vivons. Abraham a fait preuve de sagesse. Pasteur Niazi en a parlé. Après avoir donné les fleurs à sa femme, a partagé un message. Et j'aimerais y rajouter un ou deux trucs. Non, c'est pas pour ajouter. Parce que peu importe qui le dit et comment il le dit. Mais il y a des choses que j'aimerais partager. Des choses qu'il a déjà dites. Et j'aimerais vous les répéter. Et si le Seigneur veut bien ajouter quelque chose sur cette portion. Il a comparé Genèse 18 à Genèse 19. Est-ce que vous avez remarqué? Ouais. Quelle est la différence entre le chapitre 18 et 19? Il y a quelques points là. On va regarder. Au verset 1, le Seigneur lui apparut sous les chaînes de Mamré, comme il était à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva ses yeux et regardait, et voici trois hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna à terre. Plus tard dans l'histoire, on voit que deux anges se rendent à Sodome et Gomorre. Là, on a trois hommes. Et au verset 1, nous avons le mot « l'Éternel lui apparu ». Ça veut vraiment dire le Seigneur. Dieu lui a apparu. Et peut-être qu'il était l'un des trois hommes. Et ensuite, au verset 22, les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Ces deux des hommes, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Donc le Seigneur est resté avec Abraham à Mamré. Et ça parle de la communion. Et c'est une christophanie. C'est l'apparence de Dieu, c'est l'apparence de Christ préfigurée. Comme Christ apparaissait à Adam et Ève avant le Seigneur apparaissait dans l'Ancien Testament. Mais Christ n'avait jamais été créé. Il a toujours été. Mais il est né à Bethléem. Mais avant son incarnation, Christ existait déjà. Et on le voit en Proverbe 8 et en Jean 1:1, la parole de Dieu était, il existait. Et là, il apparaît dans une théophanie à Abraham, au devant de sa table. Et Pasteur Niazi, je vais faire une image. Voilà la tente. C'est une tente de Boy Scout. Et c'est la même qu'Abraham, le pauvre. Donc, Abraham est devant, et sa femme est où? Elle est dans la tente. La voilà. Et il dit, Abraham parle à Dieu. Au verset, si j'ai trouvé, reste avec moi, au verset 3. Reste avec moi. Il l'a prié. Et je ne veux pas faire d'aller-retour entre Lot qui est à Sodome et à Gomorre et il aurait pu aller dans les rues de la ville et parler pour évangéliser. C'est vraiment un parallèle intéressant, très très bien ce qu'il a fait. Et il faut garder ça en toile de fond. Mais là, le point que je voudrais soulever, Abraham a une tente, pas d'appartement. Il n'est pas établi dans ce monde. Il est juste un nomade. Il a une petite tente. Les tentes de Kedar, les tentes de Jacob. En fait, c'est vraiment ça donne une idée d'être un pèlerin. C'est une idée de ne pas être assis dans les choses de ce monde. Je pense à des gens dans l'histoire, Pasteur Taggart, Dan Colburn, nos aînés, pas Pasteur Taggart, il n'est pas vieux, mais bon. Ils avaient leur profession, leur travail, Pasteur Lange aussi. Ils ont des capacités. Ils sont équipés, ils sont doués. Et pourtant, dans leur cœur, ils disent, par la grâce de Dieu, ça va pour moi d'habiter dans une tente. Je vivrai dans une tente, peu m'importe. Parce que mes yeux sont fixés sur la ville que Dieu va faire. Le psaume 90 est un grand exemple. Le Seigneur est notre tabernacle. Et ça parle de ces lieux d'habitation. Ils ont quitté l'Égypte. Ils n'ont plus de maison. Mais si Dieu est avec nous, nous avons un foyer, une vraie maison en lui. Nous avons
nous avons des nouvelles maisons autour. Et j'ai dit, je vais prêcher. Vous pouvez avoir une maison, mais vous n'avez peut-être pas de foyer. Vous avez une toute nouvelle maison, mais ça ne veut pas dire que vous avez un foyer. C'est pas pareil. On n'a pas besoin de maison, on a besoin d'un foyer. Et cette belle image, je la vendrai plus tard au Book Café. C'est l'histoire de ta vie. Lot est parti dans le meilleur coin du pays, à Sodome et Gomorre, pour avoir son appartement. Et Dieu ne s'y est pas rendu. Ce sont les anges qui sont allés le délivrer. Mais Dieu est resté avec Abraham. Et voilà ce qu'il lui a dit. On va le lire. Chapitre 18. Verset 9. Après avoir préparé la nourriture, avoir mangé ensemble, après avoir la communion, après un bon repas, ils ont passé beaucoup de temps, ils se sont donné du mal. Au verset 9. Alors ils lui dirent, où est Sarah ta femme? Et répondu, elle est là, dans la tente. Je me demande qu'est-ce qu'elle faisait. Pourquoi elle ne fait pas la cuisine comme la femme de pasteur Niazi aurait fait? Pardonne-lui parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait. Verset 10. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Si Dieu, on lui accorde le temps, et si on était à la porte de la tente, elle est derrière, et pasteur Niazi, ça parle de le moi secret à l'intérieur de moi, la personne que je suis vraiment. Et quand vous êtes marié, vous savez combien votre époux est important dans vos valeurs. En tant que couple marié, il faut être un. Et c'est tellement personnel et intrinsèque. La femme, l'époux, est important de façon organique. Et les anges ont dit, où est Sarah? Elle est dans la tente. Il a dit à Abraham, qui est à l'extérieur, tu vas avoir un fils. Et la femme dans la tente va pouvoir porter un enfant quand je reviendrai vers toi. Et au verset 11, Abraham et Sarah étaient vieux et avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, « Maintenant que je suis vieille, aurai-je encore des désirs? Mais mon Seigneur aussi est vieux. » S'il te plaît, laisse-moi tranquille 5 minutes. C'est vraiment une grosse blague. Allez. Ah, bien sûr. Ah, ça vous arrive à vous et moi la même chose. Vous avez une vie éternelle. Ouais, c'est ça, super. Tu ne mourras pas, mais bien sûr que je ne mourrai pas, voyons. Oh, aïe. Ah, mon dos.
All right.
Et en fait, c'est quelque chose qui n'est pas à notre portée. C'est comme si on n'arrivait pas à y croire. Parce que l'autre côté de la foi, je vais l'utiliser, la foi, c'est comme une pièce. D'un côté, la salle, d'un côté de la pièce, d'un côté, c'est la foi, et l'autre côté, c'est le doute. Les deux vont ensemble. L'incrédulité fait partie de ma vie. C'est quelque chose de normal. Il y a toujours une mesure d'incrédulité. Ou alors, ça veut dire que je n'entends pas de Dieu. Parce que ce que Dieu me dit est toujours extraordinaire. Parce que Dieu dit et me dépasse toujours. Tu dis que Jésus est au ciel et qu'il prie pour moi? Oui, tout à fait. Vraiment? Comment est-ce que ça fonctionne? Crois-moi. Il le fait. Ok, Seigneur, je le crois. Et là, dans cette histoire, ce qui est beau, vous savez que Sarah a ri. Et Dieu voulait, qui voulait bien faire comprendre qu'il avait entendu ce rire. Et il la confronte avec ça. Le Seigneur dit à Abraham, pourquoi Sarah a-t-elle ri? Le Seigneur dit, et fait, pourquoi est-ce que tu ris? Pourquoi est-ce que tu ris alors que je viens te dire que tu vas avoir un enfant? Pourquoi est-ce que tu es dans l'incrédulité? Et il dit, oui, je suis de ton côté et j'aurai un fils, ok. Enfin, je crois, ou pas. Est-ce que ça ne ressemble pas à notre vie? Bien sûr que si. Et le plus beau là-dedans, c'est quand le Saint-Esprit, non seulement dans cette conversation dont nous parlons, vous imaginez, il y a cette conversation, mais le Saint-Esprit amène l'incroyable et parle à l'incrédulité dans la conversation. Et dans notre cas, on va dire, j'y crois pas, mais je vais y croire. J'en suis pas sûr, mais je vais me mettre devant toi, je vais avoir communion et je vais rejoindre mon mari là-dedans. Je vais rejoindre la parole de Dieu et je vais croire que ça c'est possible et que ça va être comme tu viens de le dire. Je vais te faire confiance. Et au verset 14, y a-t-il quelque chose d'impossible à Dieu? Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi cette même période. Et Sarah aura un fils. Mon fils étudie la biologie. Et lorsqu'on parlait ensemble, quand on est rentré à la maison, et on parlait du corps physique, ah, si tu quand tu fais alors quand tu casses tes fibres musculaires, il y a tout un schéma qui se passe et l'adrénaline arrive pour reconstruire les fibres musculaires qui ont été détruites quand tu fais trop d'efforts. Et on parlait de la façon dont le corps humain fonctionnait, c'était fantastique. Et quand l'homme vieillit, il y a moins de testostérone et plus d'œstrogène. C'est pour ça que les vieux, les hommes âgés commencent à pleurer. Explique-moi. L'œstrogène, c'est une hormone femelle. Et c'est pour ça que les femmes sont plus sensibles et pleurent plus et que les hommes pleurent moins parce qu'ils n'en ont pas autant que les femmes.
Mais quel est le rapport avec notre histoire? Est-ce que Dieu peut avoir un effet sur le corps physique de Sarah de façon qu'elle puisse avoir encore plus d'oestrogènes et qu'elle puisse être capable de concevoir un enfant? Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part du Seigneur? Et nous, on rit. Un enfant. Acte 26:8. Paul parlait devant Agrippa en disant: est-ce que tu le trouves étonnant qu'un homme ressuscite des morts? Ça, c'est une super pensée. Pascal disait: quel est le plus grand miracle? Deux cellules qui s'unissent pour former un embryon et un homme, ou qu'un homme mort revienne à la vie? Est-ce qu'il veut dire que le plus grand des miracles, c'est la naissance d'un bébé? Que deux cellules s'assemblent pour se reproduire et fassent un être humain. Ça, c'est plus grand que quelqu'un qui vivait et qui est mort et qui revive à nouveau. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'à l'intérieur de notre cœur, c'est là où nous vivons véritablement. Et c'est là où Dieu vient et nous rencontre. Et Dieu est prêt. Et il est prêt à nous parler dans l'épreuve du feu, en nous disant: mais pourquoi ris-tu? Pourquoi te moques-tu? Pourquoi est-ce que tu vis dans l'incrédulité? Pourquoi est-ce que tu es passive, indifférent? Pourquoi est-ce que tu n'es pas édifié dans ta foi? Et pourquoi est-ce que tu ne crois pas tout ce que je te dis? Pourquoi est-ce que tu ne le prends pas? Pourquoi est-ce que tu ne prends pas la sagesse pour les temps dans lesquels tu vis? Arrête d'être passif en disant: ok, c'est bon, tout va bien, elle va avoir un bébé, très bien. Mais derrière, à l'intérieur, je ris. Non. En fait, bien sûr, au verset 15, on voit que Sarah a ri. Elle dit: non, c'est pas vrai, je n'ai pas ri. Parce qu'elle a eu peur. Mais il lui a dit: mais non, au contraire, tu as ri. Non, t'as ri. C'est vrai que t'as ri. Non, dis pas le contraire. Il y a des sons très étranges qui sortent des Danois. Ah! Très étrange ce son. Très guttural. Et Sarah dit: non, j'ai pas ri. Non, j'ai pas ri. Menteuse. Non, tu as ri. Elle a été corrigée. Et écoutez, après que l'enfant est né, comment l'a-t-elle appelé? Isaac. Il rit. Rire. J'ai ri deux fois. De deux façons différentes. J'ai ri quand j'ai entendu la promesse à cause de mon incrédulité. Mais quand mon bébé est né, j'ai ri en croyant. J'ai ri d'incrédulité, mais incroyable. On va tous rire avec Sarah. Et si ça n'est pas déjà fait, on va dire: c'est vrai, je ne peux pas y croire. Dieu est tellement bon. Dieu l'a fait. Il est comme il a dit d'être. Il est réel. Et merci Seigneur, parce que tu es venu jusque dans ma tente sans que je t'y invite. Et tu es rentré à l'intérieur de moi, en dessous de mes sous-vêtements. Mais je n'ose pas le dire de façon publique, donc je ne l'ai pas dit. Tu es rentré là où je vis. Tu es rentré au cœur de moi-même. Et tu m'as parlé, tu m'as conduite. Je t'ai cru, tu me l'as vendu et je te loue maintenant. Et Abraham est resté devant le Seigneur. Et lorsqu'il est rentré dans sa tente, il a pris sa femme. Elle a eu un bébé. Et donc, elle est là avec son déambulateur. Et on voit un petit ventre Elle commence à croire là. Ok. Oui, oui. Oui. Ça se produit. C'est là. Quand vous prenez cette histoire et vous la comparez en Genèse 19 avec Sodome et Gomorrhe, vous avez un autre croyant, mais tout est différent. Il aurait dû être plus que Dieu parle avec lui et le conduise. Il y a beaucoup de croyants qui vivent à l'extérieur, qui sont trop établis dans ce monde et qui ne sont pas disponibles pour Dieu. Exactement comme Lot. Il n'a pas eu la sagesse pour son temps. Je vais vous demander de vous lever, de dire bonjour à votre voisin et de dire Dieu te bénisse à votre voisin et de parler un peu de ce qu'on vient de dire.